Monseigneur, mesdames et messieurs, chers amis d'Aqua, c'est un anniversaire pour moi parce qu'il y a 3 ans, j'avais l'honneur de plancher ici même, devant les élèves de cette de Saint-Jacques de Compostelle, qui est un lycée d'élite, je suis très touché d'être accueilli à nouveau dans ces locaux. Je voudrais rappeler quelque chose à moi qui suis un vieil Égyptien, c'est que le patriarche copte catholique Sidaros avait fait ses études ici. Le patriarche Sidaros, qui était d'une très grande famille copte catholique d'Égypte, avait fait ses études au séminaire de Dax. Nous l'avions connu quand nous étions en poste en Égypte de 1971 à 1976, je l'avais connu en 1974, mais il avait fait ses études vers 1920. Il est décédé en 1978. Il faut dire que la plupart dans les premiers siècles, les chrétiens orientaux ont joué un rôle extrêmement important. Les deux premiers évêques de Lyon, Irénée et Plotin, venaient donc de Smyrne. C'était des Anatoliens, c'est-à-dire des Hellènes, des Grecs à l'époque. Et les chrétiens orientaux ont joué un rôle extrêmement important pour nous, qui avons été finalement christianisés par ces chrétiens. Mais, Monseigneur, si vous le permettez, je souhaiterais avoir présenté une petite fille irakienne qui est une réfugiée. Et je crois qu'il parlera beaucoup mieux que moi des chrétiens orientaux. Là, ce sont des chrétiens irakiens, mais vous imaginez, vous le savez, que les chrétiens syriens, chrétiens égyptiens, pour beaucoup, et dans d'autres pays, en Iran aussi, sont dans une situation très difficile, très compliquée. Mais ce qui est extraordinaire, et je crois, je me réfère toujours au grand maître que j'ai connu quand j'étais jeune étudiant, c'est Louis Massignon. Louis Massignon était en 1909 à Bagdad. Il était à ce moment-là, il avait des idées particulières sur la religion, il était plutôt non religieux, et tout d'un coup à Bagdad, il y a eu le choc et il est redevenu chrétien. Et il m'a toujours dit, l'Irak, c'est le pays où les musulmans m'ont remis dans la chrétienté. Je dois dire que le début de mes humbles études en arabe, ça a été notamment à Mossoul, où les pères dominicains m'ont reçu, où j'ai eu l'occasion d'enseigner l'arabe pendant 1 an au petit séminaire, et donc d'apprendre l'arabe. Et c'est pourquoi l'Irak, où j'ai passé 5 ans par la suite, lecteur à l'université, puis attaché culturel, est resté énormément dans mon cœur, dans la région d'Erbil. Ils ont été chassés de ces villages, qui sont les villages de la plaine de Ninive. Vous remarquez chez ces enfants, et ça veut dire l'influence naturellement à la fois du clergé, mais des familles, ces familles ont une foi extraordinaire. C'est ça qui faisait dire à Louis Massignon qu'il avait réappris la foi. Cet enfant, naturellement, parle naturellement, elle parle de son cœur, mais les mots qu'elle emploie, ça me rappelle quelque chose de personnel, parce que mes grands-parents venaient du Gers, et lorsque vous parlez le gersois et d'autres dialectes qui sont de la région, vous voyez que Dieu intervient beaucoup. Par exemple, on dit « Adiou ». Mais quand on dit « Adiou », maintenant, le français moyen ne sait plus que ça veut dire « que Dieu te garde ». Que Dieu te garde sur ton chemin, je te confie à Dieu. Ça, les Arabes le savent. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. On ne se rend pas compte que notre français a complètement dévié. Quand on dit adieu à quelqu'un, ça veut dire tout autre chose. Il n'y a plus de Dieu dedans. Mais chez les chrétiens et chez les chrétiens orientaux, il y a toujours cette volonté d'être un peu sous la providence. Et nous avions commencé tout à l'heure en disant l'importance que les chrétiens d'Orient avaient pour les chrétiens d'Occident. Un deuxième exemple simple, c'est le monachisme. Le monachisme nous est venu d'Égypte. Lorsque plusieurs d'entre vous avez visité l'Égypte, vous avez vu ces monastères, Saint-Antoine, tous ces monastères extraordinaires, les monastères qui se trouvent à 100 km au nord du Caire. Et vous voyez cette vie intense, extraordinaire, ces règles aussi, c'est-à-dire notamment les règles des 8 heures, c'est-à-dire donc prier, travailler et lire. Et c'est ça qui est fantastique, parce que ces règles orientales sont entrées, bien sûr, plus tard. Le monachisme a atteint la vallée du Rhône, il est monté jusqu'à Lyon, et puis il est reparti dans toute l'Europe. Et on ne se rend pas compte que ce monachisme chrétien occidental avait ses sources dans le monachisme oriental. Mais ce qui est extrêmement important pour que nous comprenions vraiment ce que représentent les chrétiens dans ce Moyen-Orient, c'est l'importance que le christianisme oriental a eue sur l'islam. Si vous regardez le Coran, bien sûr, il y a un très grand nombre de sourates, dont la sourate Myriam. Myriam, bien sûr, vous l'avez compris, c'est Marie. Et de ce fait-là, la plupart de nos prénoms, d'ailleurs, que ce soit Jacques, Jean, etc., tous ces prénoms nous viennent précisément du Proche-Orient. Hein. Ce sont des prénoms sémitiques. Et la sourate de Marie est extrêmement importante parce qu'elle montre l'importance que les musulmans, surtout les musulmanes, vouent à Marie. Mais elle voue à Marie parce que c'est inscrit aussi dans le Coran. Et avec toutes les tribulations que les orientaux ont eues, nous avons eu plusieurs familles musulmanes, par exemple, qui sont venues en France. Certaines ont demandé à mon épouse, parce qu'elles lui font confiance, de les conduire, par exemple, à Paris, à la chapelle de la Médaille Miraculeuse, pour prier pour leurs parents. C'est pour leurs enfants, pour leurs maris qui étaient prisonniers, etc. On ne se rend pas compte de ça. On ne voit que ce qui oppose. Il faut voir dans le cœur des gens ce qui rapproche. C'est extrêmement important. D'autre part, nous parlions du monachisme. On est surpris, quand on est justement dans un monastère égyptien, entre autres, de l'heure des prières. Les prières, c'est 2 heures avant le lever du soleil, et puis, alors ça sera naturellement les prières de midi, et puis de l'après-midi, les vêpres, et puis ensuite 1 heure ou 2 heures avant le coucher du soleil, et puis 2 heures après le coucher du soleil. Mais si vous regardez l'horaire des prières musulmanes, des 5 prières musulmanes obligatoires, vous vous rendez compte que c'est exactement ces heures-là. C'est-à-dire qu'il y a eu considérablement d'emprunt. C'est normal d'ailleurs, l'islam est venu après le christianisme et donc a emprunté énormément de choses. C'est là-dessus que nous devons souvent compter pour essayer de trouver quelque chose qui puisse rapprocher et surtout qui puisse protéger nos chrétiens orientaux qui sont dans une grande difficulté aujourd'hui. On vous a remis un document où vous avez notamment le Notre Père, et vous remarquez que le Notre Père est en araméen au milieu et en arabe. Et l'araméen est la langue que parlaient les chrétiens. D'ailleurs, l'araméen est une langue qui était parlée à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, c'était la langue officielle, notamment de l'Empire sassanide. Et l'araméen a été adopté. Jésus parlait un dialecte araméen. C'est le syriaque palestinien et le syriaque occidental. Il y a le syriaque occidental, le syriaque oriental. Et c'est ce qui a fait, d'ailleurs, et j'ouvre une parenthèse, parce que vous avez précisément dans ce document sur lequel nous n'insisterons pas, bien sûr, c'est les divisions des chrétiens orientaux. Eh bien, une des divisions des chrétiens orientaux est venue lorsque les Byzantins ont essayé d'imposer le grec en ce qui concerne la messe aux Syriaques, c'est-à-dire aux Syriens. Les Irakiens étaient sous le joug des Iraniens. Mais c'est pour ça qu'il y a eu des mouvements d'opposition aux Byzantins, au byzantinisme, à l'orthodoxie byzantine, simplement parce que nos frères chrétiens de cette époque-là disaient « Mais la langue de Jésus, c'est notre langue, nous parlons syriaque. » Certains d'entre vous, bien sûr, ont été à Maaloula, par exemple, en Syrie. Ils ont entendu ce dialecte en Irak. Tous les chrétiens orientaux, notamment du Nord, les Syriaques, les Assyriens, parlent encore l'araméen. Et ça, je crois, c'est important. C'est important pourquoi ? Parce que la langue arabe, notamment la langue arabe coranique, a pris énormément de vocabulaire de l'araméen. C'est-à-dire que si l'on veut faire disparaître le christianisme, il n'empêche que tout ce qui était chrétien est entré peu à peu, notamment dans l'islam. C'est extrêmement important. Et l'alphabet lui-même, si vous comparez les deux alphabets, vous voyez que l'alphabet araméen a influencé ce qu'on appelle l'alphabet koufique arabe. Et ça, je crois que ce sont des choses toujours à rappeler, extrêmement importantes. Les chrétiens ont joué un rôle très important. Ceux qui connaissent Damas et la grande mosquée omeyyade de Damas, lorsqu'ils voient les trois portes de l'entrée de la mosquée, se disent « Mais enfin, il y a de l'influence du christianisme là. » Oui, en effet, les trois portes de la basilique, avec dans la grande mosquée de Damas, vous avez le catafalque de Saint Jean, qui est là, Saint Jean-Baptiste. Et dans cette mosquée, chrétiens et musulmans vont justement demander des grâces, prier devant le catafalque de Saint Jean. Donc il y a énormément de rapprochements. Ensuite, pourquoi cette extraordinaire mosquée des Omeyyades, qui est une des plus belles mosquées du monde, ressemble avec ses trois nefs à une église? Parce que les architectes, à l'époque, étaient des architectes chrétiens. Il n'y avait pas encore des architectes musulmans. C'était encore trop tôt pour la civilisation omeyyade. Et tout cela est à rappeler parce que nous, étant donné le temps imparti, nous glissons rapidement sur le temps. Mais la deuxième particularité des chrétiens aujourd'hui, et j'anticipe en disant que à un moment de ma modeste carrière, j'ai enseigné à l'université des Lazars au Caire. J'avais des étudiantes en master 2 de traduction, ce qu'on appelle la traduction simultanée. Ces étudiantes venaient toutes donc musulmanes, puisque nous étions à l'université des Lazars, toutes musulmanes, elles venaient toutes de nos écoles, je dis nos écoles parce que ce sont nos écoles chrétiennes, la Mère de Dieu et autres. Lorsque le dernier gouvernement de Moubarak est tombé, la moitié des ministres étaient francophones parce qu'ils étaient tous sortis du collège jésuite de la Sainte Famille et des frères des écoles chrétiennes. Donc, encore aujourd'hui, les établissements chrétiens jouent un rôle extrêmement important dans la formation des élites musulmanes. C'est les familles musulmanes ont, en ce qui concerne leurs filles et leurs garçons, mais leurs filles d'abord, une confiance totale lorsqu'ils confient leurs filles à des écoles religieuses tenues par des religieuses. Voilà. C'est ça qui est important. Ça se passe en Irak. J'accompagnais donc Mgr Golnisch en Irak au mois de novembre et nous tournions dans les institutions qui accueillent les réfugiés irakiens. Et notamment, nous sommes allés dans un jardin d'enfants qui était tenu par deux sœurs irakiennes qui étaient venues donc de Bagdad et qui tenaient ce jardin d'enfants magnifique pour ces enfants parce que c'était très bien décoré, c'était dans une cave, mais c'était extrêmement bien décoré par des donateurs, l'œuvre d'Orient en était, mais aussi de l'archevêché de Cologne. Et ces enfants, une des religieuses m'a dit, vous savez, nous avons, alors je lui ai dit, est-ce que vous avez des enfants musulmans? Elle m'a dit, mais bien sûr que nous avons des, nous recueillons les enfants dans la rue, et nous allons les emmener là, pour qu'ils soient pendant quelques heures dans un confort qu'ils n'ont pas chez eux. Et elle m'a dit, vous savez, notre grand lycée à Bagdad, qui est le lycée Saint-Jean-Baptiste, nous avons 2000 élèves. Sur les 2000 élèves, il y a 172 chrétiens. Tous les autres sont musulmans, chiites et sunnites. Pourquoi croyez-vous que les chiites et les sunnites irakiens, après tout ce qui s'est passé, après des massacres de chrétiens, il n'y a pas eu seulement des massacres de chrétiens, il y a eu des massacres de musulmans, des massacres de yézidis, ça a été quelque chose d'effrayant. Pourquoi ces familles ont-elles confiance ? Alors, il faut revenir à quelque chose qui nous touche aussi à nous, à notre histoire personnelle, c'est cette sorte d'accord que l'on a appelé capitulation, du latin capitulationes, qui veut dire les chapitres d'un traité, comme on fait un traité d'amitié, par exemple, et en arabe on dit imtiazat, c'est-à-dire donc ces négociations qu'il y a eu, entre François Ier, plutôt les diplomates de François Ier, et les diplomates du très grand sultan Soliman, celui qu'on appelait Soliman le Magnifique. Et François Ier, naturellement, comme vous le savez, était pris en tenaille. La France était partout assiégée, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne appartenait à Charles Quint. Et donc, nous étions complètement sans aucune force. Il fallait donc s'appuyer sur des alliés qui étaient extérieurs et des alliés qui étaient aussi européens. Parce qu'à ce moment-là, Soliman le Magnifique, enfin, les Ottomans, ils avaient déjà conquis la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, ils montaient sur la Hongrie, ils allaient atteindre le Danube. Donc, c'était considéré comme une nation européenne. Et donc, François Ier a accepté, effectivement, mais en échange, il a obtenu des négociateurs donc musulmans une concession qui était extrêmement importante. Cette concession, c'était que le roi de France était le protecteur des chrétiens occidentaux de l'Empire ottoman. C'est-à-dire donc qu'il y avait à cette époque-là, notamment des Génois, naturellement, les Génois, les Vénitiens, les Italiens, etc. Mais il y avait aussi des Polonais, il y avait des Slovaques, il y avait aussi ceux, les chrétiens, qui appartenaient à l'Empire ottoman. Peu à peu, cette protection a glissé. C'est-à-dire que peu à peu, profitant du fait que le sultanat ottoman perdait de l'importance vis-à-vis de l'Europe, les Français ont obtenu du bout des lèvres qu'ils pouvaient être protecteurs, discrets, mais efficaces, des chrétiens orientaux, c'est-à-dire des chrétiens ottomans. Ceci s'est passé de la façon suivante. Il y a eu donc un protocole d'échange, des ambassades, une ambassade pérenne a été ouverte à Istanbul, avec un ambassadeur, et puis des consulats, ce que Amin Maalouf a appelé les échelles du Levant, c'est-à-dire donc depuis Smyrne, en passant par Saïda et puis Alexandrie, et puis aussi les ports barbaresques de Tunis et d'Alger et d'Oran. Et ces consulats, pour montrer qu'ils appartenaient à la France, il fallait qu'il y ait dans l'ambassade et dans le consulat un religieux qui puisse dire la messe tous les jours. Ce religieux, naturellement, donc c'est à ce moment-là que les lazaristes sont arrivés, que les jésuites sont arrivés, les dominicains, c'est-à-dire toutes les grandes congrégations sont venues peu après protégées par la France. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? La question n'était pas de convertir des musulmans. La question était de soutenir déjà les chrétiens orientaux. Et pour les soutenir, il fallait leur donner la clé de leur subsistance, c'est-à-dire leur permettre de passer de sujets de deuxième classe à des personnes qui seraient en mesure d'entretenir des relations commerciales, notamment avec l'Europe. Et de ce fait, il fallait ouvrir des écoles. Et ces écoles ont commencé à être ouvertes à partir du XVIIe siècle, pour les garçons. C'est-à-dire qu'on a ouvert des écoles, notamment dans les grands consulats. Le consulat d'Alep. Alep était la deuxième ville de l'Empire ottoman après Istanbul. Et Alep était, et est resté d'ailleurs, une capitale de l'éducation, de l'enseignement, etc. Naturellement, cela a pris du temps. Un siècle après ces congrégations masculines, sont venues les congrégations féminines, notamment les sœurs lazaristes sont venues, et puis les dominicains et les jésuites ont fondé un certain nombre de congrégations locales au Liban, en Syrie, en Irak. Et ces religieuses avaient beaucoup plus de facilité pour pénétrer dans les maisons, puisqu'elles pouvaient aller voir justement les dames de la maison. Et donc, elles sont arrivées à susciter l'intérêt pour participer à un ouvroir, par exemple, et produire des objets d'art dans les maisons, de telle manière que le niveau de vie de ces familles chrétiennes montait, puisqu'ils pouvaient le vendre aux grandes familles riches. De même, l'ouverture d'écoles de filles a été extrêmement importante, puisque ces écoles de filles ont permis précisément aux jeunes filles, à partir du milieu du XIXe siècle, tout d'un coup, d'émerger et de participer à la littérature, peut-être aux journaux qui s'ouvraient, etc. Ceci est resté. C'est-à-dire que les chrétiens d'Orient, non seulement ont ouvert des écoles, mais ils ont ouvert tout ce qui forme une société civile. Les dispensaires, les hôpitaux. Vous le savez, que souvent les jésuites et les pères lazaristes aussi avaient une vocation de médecin, c'est-à-dire beaucoup étaient venus comme médecins, ce qui leur permettait de pénétrer dans les maisons et justement de soigner. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce que les chrétiens ont obtenu vis-à-vis de leurs voisins musulmans un respect pour précisément leur dévouement et pour aussi leur honorabilité. Et ça, je crois que c'est extrêmement important à comprendre, encore aujourd'hui, que même dans des pays comme l'Irak, il y a 2 ans, nous avons été invités avec Mgr Stinger à Bagdad. Nous avons été invités à Najaf et à Karbala par des communautés chiites. Et les chiites nous ont dit précisément, regardez, nous, les chiites irakiens, nous tenons absolument à ce que les chrétiens restent parmi nous, parce que nous avons confiance dans leurs écoles, nous avons confiance dans leurs hôpitaux. Les religieuses, nous avons confiance en elles. Voilà. C'est-à-dire, ce sont des petites choses, ce sont des petits gestes, mais pour faire une société civile, c'est extrêmement important. Et précisément sur cette société civile, je voudrais citer des exemples. Nous sommes en ce moment dans une phase d'étatisation du religieux au Moyen-Orient, avec des gouvernements qui sont renversés par précisément des mouvements violents, des mouvements islamistes violents, que ce soit Daesh, Jabhat al-Nusra, etc. Et c'est ça qui, actuellement, empêche la formation de la société civile. Il semble que nous, occidentaux, chrétiens occidentaux, et qui essayons d'aider les chrétiens orientaux, la question n'est pas de venir dire « regardez comme nous faisons ». Parce que beaucoup d'orientaux ne souhaitent pas être des copies d'occidentaux. Mais aider nos amis chrétiens à précisément tenir ce rôle dans la société civile, qui est un rôle moteur. Il y a eu une thèse qui a été faite récemment, qui a été soutenue à Paris, à Paris 4, par une jeune irakienne qui était la consule d'Irak à Paris. Elle a soutenu une thèse sur l'enseignement catholique en Irak. C'est une chiite. Et elle a montré par là que l'enseignement catholique était au départ, qui a été sponsorisé surtout par les pères dominicains, notamment à Mossoul, a permis de fonder une élite, et le journalisme irakien, l'Irak est un pays neuf, il n'existait pas avant 1921. Les Anglais en ont fait un royaume, mais il a fallu attendre 1926, par exemple, pour que Mossoul, grande ville où il y avait encore beaucoup de chrétiens, à peu près 20%, rentre dans l'Irak. La Turquie ne voulait pas céder Mossoul. Ce qui explique aussi les problèmes actuels d'aujourd'hui. La géopolitique actuelle, mais c'est naturellement la petite fille de ce qui s'est passé à l'époque, et notamment dans la création de ces États qui sont issus de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman en détresse a produit un certain nombre d'États qui se sont bien ou mal constitués. Et je souhaiterais citer un certain nombre d'auteurs chrétiens et musulmans sur la formation, sur l'espoir qu'ils ont de former une société civile. La première constatation à faire dans cette recherche, c'est que l'amélioration des conditions d'intégration des chrétiens d'Orient dans les États arabes ou voisins Iran-Turquie, à large majorité musulmane, soit conditionnée par l'acquisition générale par l'ensemble des citoyens des droits proclamés par la Déclaration onusienne des droits de l'homme. C'est le patriarche Grégorios, qui était le patriarche grec catholique, Melkite, qui le disait dans un colloque qui s'est tenu à Amman sous le patronage du roi Abdallah, sur précisément le rôle des chrétiens dans la société jordanienne. D'où il s'ensuit une deuxième constatation, c'est que les futurs gouvernements appliquent la séparation des lois religieuses et des lois civiles. Il faudra donc une révolution de l'intérieur et non importée. Ça, c'est extrêmement important. certains aspects des printemps arabes que nous avons étudiés vont dans le sens d'une conciliation entre le respect de la religion et celui de la citoyenneté. Les chrétiens d'Orient n'auront plus à fuir pour des raisons religieuses le jour où leurs concitoyens musulmans n'auront plus à fuir eux-mêmes pour des raisons politiques. Très fort. Et ça, je crois que c'est ça la clé. C'est ça la clé. Je me permets de répéter cette phrase parce que je trouve cette manière, par le patriarche Grégorios, de concevoir le futur dans un pays, la Jordanie encore est un pays qui protège les chrétiens. Et j'ouvre simplement une parenthèse qui est un clin d'œil sur les sociétés arabes. Les sociétés arabes sont encore des sociétés tribalisées. C'est-à-dire que si moi, je suis un citoyen syrien lambda, que j'appartiens par exemple à Raqqa, ou dans une ville ou Alep, je dépends d'une tribu. Et donc, c'est le chir de cette tribu qui va me permettre d'avoir un poste au gouvernement, de faire entrer mon fils à la faculté des ingénieurs, etc. En Jordanie, les chrétiens, et certains d'entre vous naturellement ont été en Jordanie, ils ont visité des villes comme Madaba, par exemple, et les chrétiens, ou Kerak, où les chrétiens sont encore tribalisés. C'est-à-dire qu'ils ont un chir, et on ne monte plus à cheval maintenant, mais ils ont des attitudes d'anciens chirs arabes. Et ils sont considérés comme égaux aux chirs musulmans, parce qu'ils représentent une tribu. La grande faiblesse des chrétiens d'Orient disséminés dans les villes, que ce soit en Syrie, en Irak ou en Égypte, c'est qu'ils n'appartiennent plus à une tribu qui dépassait la cité, c'est-à-dire qui protégeait les participants de cette tribu. Naturellement, ce sont des nuances qui sont très compliquées à connaître quand on n'a pas une connaissance des pays. Mais la grande faiblesse des chrétiens n'est pas dans leur petit nombre, elle est dans le fait qu'ils ont été détribalisés. Et donc, ils ont été détribalisés parce que les circonstances dramatiques dans lesquelles ils ont pu être à certains moments, des assassinats, les ont poussés vers les villes. Et dans les villes, ils n'avaient plus justement cette aide qu'ils avaient quand ils étaient restés dans la campagne. C'est extrêmement important, et ceux qui s'occupent justement des chrétiens ici, il y en a naturellement parmi vous, les chrétiens que vous avez reçus ici dans le département, ces chrétiens orientaux sont en manque de soutien, non pas de leur état même, mais de ce qui pouvait constituer l'armature de leur communauté. C'est pourquoi les évêques, les prêtres ont une importance très grande, parce qu'ils ont pris le relais des anciens chers de tribu. Lorsque un père de famille chrétien veut aussi obtenir un poste pour son fils, qui va-t-il trouver d'abord ? Il va aller trouver son évêque, il va aller trouver son curé, et puis il va aller trouver son évêque, et son évêque, c'est quand même un personnage, une personnalité vis-à-vis du gouvernement, entièrement musulman. Et donc, cet évêque, il va aider à obtenir, par sa respectabilité, par le fait que l'on le considère comme quelqu'un de notable, il va intervenir. Voyez donc, ce que je dis, c'est-à-dire que dans ces états, il est très difficile d'obtenir ce à quoi on a droit. Mais il est assez souvent possible d'obtenir ce à quoi on n'a pas droit. C'est ceux qui ont vécu dans ces pays-là le savent. Et donc, je voudrais m'arrêter un peu pour laisser parler d'autres jeunes qui, beaucoup mieux que moi, vous diront la situation dans laquelle ils sont, les espoirs qu'ils ont encore, parce que je crois que ces espoirs constituent la société civile de demain. Ceci n'a pas besoin de commentaires, mais le seul commentaire qu'on puisse faire, que vous avez entendu, c'est précisément ce désir des parents que leurs enfants soient éduqués. C'est le seul moyen, et ça, c'est quelque chose, c'est le fil rouge qui continue. C'est-à-dire que c'est tous les parents chrétiens, et beaucoup de parents musulmans, souhaitent que leurs enfants aient fait des études pour être au niveau, justement, pour créer la société civile. Et à ce propos-là, on vous a distribué un petit dossier. Je ne sais pas s'il y en a eu suffisamment pour tous. Monseigneur n'en a pas, par exemple. Voilà, je lui remettrai celui que vous avez emprunté. C'est simplement que vous avez, sur le christianisme au Proche-Orient, que vous avez notamment les chiffres aujourd'hui des chrétiens dans les différents pays. Parce que souvent, naturellement, on dit « oui, vous avez parlé de l'historique, etc. » Mais la culture des chrétiens, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en 2019? En Égypte, c'est quelque chose d'extraordinaire. 1 million de kilomètres carrés, c'est... Bon, il y a 100 millions d'habitants. Quand nous habitions en Égypte en 1971, il y avait 40 millions d'habitants. Absolument. Inouï, 40 millions. Ils sont passés, d'ailleurs, les statistiques, c'est 102 millions. Les chrétiens, c'était à peu près toujours 10%. Mais ils ont diminué. La présence d'un gouvernement militaire de Sisi les retient davantage aujourd'hui. Curieusement, quand on pense à un État militaire, mais c'est simplement que si on regarde l'Égypte depuis Nasser, il y a eu 4 présidents qui étaient des militaires, et le seul civil qui a été président pendant 2 ans, jusqu'en 2014, c'était un frère musulman qui a été absolument épouvantable pour les chrétiens. C'est à ce moment-là qu'il y a eu, entre 2012 et 2014, le plus d'églises brûlées, de quarts de pèlerins chrétiens attaqués, etc. Le maréchal Sisi, donc nouveau président, la première des choses qu'il a faites, c'est au moment de la Noël copte, il est venu assister à... C'est le premier président de la République égyptienne, donc il est venu assister à la Noël, donc qui a lieu, comme vous le savez, le 7 janvier en Égypte. Il est rentré dans la cathédrale avec le patriarche. Et donc, c'est un geste qui dit assez. Et une nouvelle loi est sorti sous sa direction, qui permet aux églises de restaurer, de faire les restaurations nécessaires beaucoup plus rapidement. Il n'empêche que dans un pays comme l'Égypte, les coptes qui représentaient sous les khédives, c'est-à-dire vers 1880, 50% des fonctionnaires étaient coptes. Parce que précisément, ils avaient fait des études, parce que les chrétiens font tous des études. Et aujourd'hui, le nombre est considérablement diminué. Les Coptes ont beaucoup de difficultés à rentrer dans le gouvernement, pas seulement dans le gouvernement, mais je veux dire dans la fonction publique, entre autres. Il y a des interdictions qui ne sont pas écrites, mais qui sont réelles. Certaines professions, comme la gynécologie, les départements de gynécologie des facultés de médecine ne reçoivent jamais un copte, un étudiant copte, parce qu'il pourrait, précisément, il aurait à traiter des patientes musulmanes. Donc, si vous voulez, ça va très loin. Mais ça, rien n'est écrit. C'est pourquoi les gynécologues coptes, qui veulent continuer à travailler en Égypte, font leurs études en Europe, etc., et reviennent avec leur diplôme. Donc, il y a des interdictions qui sont tellement énormes, mais cachées, que c'est extrêmement difficile. L'Irak, vous avez le chiffre de 400 000 chrétiens sur 32 millions d'habitants. En 2003, lorsque les États-Unis ont pénétré en Irak, il y avait 1 200 000 chrétiens. Il y en a 400 000 aujourd'hui. C'est-à-dire que à partir de 2003 jusqu'à peu près à 2010, il y a eu énormément d'exactions qui ont été faites contre les chrétiens. Pas seulement contre les chrétiens, d'ailleurs, mais aussi contre les Yézidis, contre les Mandéens, contre toutes les minorités chrétiennes ou non, mais aussi contre les minorités ethniques, les Kurdes, les Turkmènes, les chiites dans des quartiers sunnites, les sunnites dans des quartiers chiites. C'est-à-dire que ça a été d'une violence absolument effrayante, si bien que les deux tiers des chrétiens ont disparu, ils ne pouvaient plus vivre. Et beaucoup sont allés se réfugier, notamment dans le Kurdistan, région relativement protégée depuis que, en 1991, les Américains aient interdit le gouvernement irakien de bombarder les zones kurdes. Et à ce moment-là, il y a eu une rémission et beaucoup de chrétiens, y compris de Bassora ou autres, sont montés. Mais l'Irak est un pays qui essaie de façon surprenante, l'Irak est un pays qui essaie de créer une société civile, mais pas une société civile comme nous la connaissons. Nos sociétés civiles sont obligatoirement, surtout en France, laïques. C'est-à-dire la question de la religion n'entre pas du tout. Mais pour que les différentes communautés arrivent à s'intégrer, les Irakiens ont trouvé une méthode que l'on appelle une méthode à la libanaise. C'est-à-dire que le président de la République kurde est un kurde sunnite, que le président du conseil est un arabe chiite et que le président du parlement est un arabe sunnite. C'est-à-dire qu'on distribue en essayant de donner non pas aux individus mais aux communautés. La société civile, en fait, en Orient, est une société de communautés qui essaie de défendre. Donc il y aura naturellement un ou deux ministres chrétiens, un ou deux ministres turkmènes, il y aura naturellement les adjoints de ces personnalités appartiendront à une autre ethnie, par exemple le kurde, il y aura un arabe à ses côtés, etc. C'est-à-dire que, tant bien que mal, on essaie de faire l'après Daesh, qui a fait tellement souffrir, bien sûr, nos frères et nos sœurs chrétiens, mais également toutes les communautés. Israël, c'est un pays, naturellement, Israël et Palestine. Les chrétiens sont peu nombreux, sont de moins en moins nombreux, et surtout, ils ont de grandes difficultés aussi, notamment l'archevêque de Paris avait reçu une délégation palestinienne, donc Mgr Goldisch m'avait demandé de venir, j'avais assuré la traduction à ce moment-là, et on voyait que il y avait donc la délégation était faite du moufti de Jérusalem, du gouverneur arabe de Jérusalem, et puis de personnalités chrétiennes, des députés palestiniens. Il y avait notamment l'ancienne maire de Bethléem, qui est une femme qui a écrit un livre sur Bethléem, magnifique. Et donc, ce qu'ils ont dit, c'était, en s'adressant à l'épiscopat français, c'était « aidez-nous à conserver nos... par exemple, le gouvernement israélien est en train de faire un grand nombre de taxes sur les édifices chrétiens, de taxes d'habitation ou autres, qui sont exorbitantes, puisqu'il semble qu'ils veulent revenir une cinquantaine d'années avant, donc ça avait naturellement une situation extrêmement difficile. Donc là aussi, naturellement, les choses doivent se traiter au niveau diplomatique, bien sûr, puisque nous avons notre consulat de Jérusalem qui s'occupe notamment de ces affaires-là. Néanmoins, les chrétiens ont comme les musulmans palestiniens, de très grandes difficultés en Israël. La Jordanie, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit, mais c'est précisément la tribalisation des chrétiens qui leur permet d'être à un certain niveau. Et il s'est trouvé que dans l'entourage du roi Abdallah, notamment le frère du roi Hussein, qui était extrêmement proche des chrétiens, avait écrit un ouvrage remarquable, « Il faut que les chrétiens restent parmi nous, parce que sans les chrétiens, ben, nous ne pouvons rien faire. » C'est absolument extraordinaire. C'était donc l'oncle du roi Abdallah. Au Liban, le Liban, beaucoup d'entre vous le connaissent. Nous avons Madame Amal qui est là. Et je la remercie aussi pour ça. Et le Liban est un pays où, naturellement, le nombre de chrétiens, la proportion des chrétiens a considérablement diminué, puisque lorsque l'État libanais s'est mis en place, vers 1921, on comptait à peu près 50% de chrétiens. Actuellement, les chiffres les plus, disons, les plus optimistes, c'est 33%. Ce sont les chiffres de l'ambassade américaine, entre autres. Les chiites sont 33%. Les sunnites sont 33%. C'est-à-dire, donc, c'est le pays des trois tiers, si l'on peut dire. Comme vous le savez, le président de la République est un chrétien, donc maronite. Lorsqu'on interroge les personnalités musulmanes, ils vous disent clairement, en ce qui concerne les sunnites, nous n'aurons jamais un président chiite. Les chiites disent, nous n'aurons jamais un président sunnite. Donc, le seul moyen, c'est le chrétien, et qui joue là un rôle, puisque de toute façon, il faut une majorité. Si vous comptez 33 plus 33, ça fait 66%. Chrétien plus sunnite, ça fait 66%. Chrétien plus chiite, ça fait 66%. En fait, les chrétiens sont également divisés entre pro-sunnite et pro-chiite, parce que c'est le seul moyen de tenir. Et je crois que c'est extrêmement important. Alors, tout à l'heure, je disais, c'est à la libanaise, n'est-ce pas, une manière de tenir le gouvernement. Le Premier ministre est obligatoirement un sunnite et le président du Parlement est obligatoirement un chiite, tandis que le président de la République est obligatoirement un chrétien maronite. Donc, c'est une manière que les communautés s'équilibrent. Nous ne sommes pas dans des pays où la laïcité règne. La Syrie La Syrie est naturellement dans une situation dramatique aussi. Ce n'est pas seulement à Barghouz, c'est-à-dire le dernier îlot où est Daesh, mais il y a, comme il y a en Irak d'ailleurs, énormément d'attentats dans les différentes régions, même si elles ont été pacifiées, on voit qu'il y a souvent des attentats. Que les chrétiens eux-mêmes, donc, sont le chiffre de 800 000, paraît presque trop grand. On parle de 600 000. Mais si nous restons à 800 000, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens syriens qui sont réfugiés dans les pays limitrophes, c'est-à-dire notamment le Liban et la Jordanie. Et que lorsque la situation va s'améliorer ou se stabilisera, les chrétiens reviendront. Or, les chrétiens jouent un rôle extrêmement important en Syrie. Il y a, par exemple, à Damas, 6 collèges qui ont réouvert. Hein, ils ont été bombardés, ils ont été réouverts. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que ces collèges chrétiens, les parents musulmans, alaouites, sunnites, font tout ce qu'ils peuvent pour que leurs enfants rentrent dans ces collèges. C'est-à-dire que les chrétiens sont connus pour précisément assurer un enseignement de qualité. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Ça nous donne un peu d'espoir, mais nous avons du côté de l'islam de personnalités musulmanes. Je voudrais en citer simplement 2, parce que vous verrez avec quelle violence les musulmans décrivent leur propre descente dans l'abîme. C'est un très grand journaliste qui s'appelle Sarraf. Sarraf écrit dans un journal kuwaitien. Les Kuwaitiens, donc le Kuwait, qui est un petit pays, mais a des journaux qui sont souvent cités dans la presse internationale. Le Kuwait, les Émirats ont des journaux de bonne qualité et ils ont, comme ils ont beaucoup d'argent, leur presse est d'un niveau très, très acceptable. Et donc, sur un mode ironique, voilà ce que Sarraf écrit. C'est en mai 2016. Dégagez, dégagez de Mossoul, chrétien. Dégagez de Damas, de Yabrout, de Maloula, de Ninive, de Bagdad. Dégagez, chrétien du Liban, de nos montagnes et de nos vallées. Dégagez, chrétien de Palestine et de la péninsule. Dégagez de nos rivages et de nos terres. Dégagez de sous nos peaux, nous vous abhorrons, nous ne voulons pas de vous. Dégagez, parce que nous en avons marre de la civilisation et du progrès, et de l'ouverture à l'autre, et de la miséricorde, et de la fraternité, et de la coexistence, et du pardon. C'est extrêmement violent. Et Sarraf est un très grand journaliste. Dégagez, pour que nous puissions en toute quiétude nous entretuer. Dégagez, vous ne faites pas partie de nous, ni nous de vous. Dégagez pour que nous n'ayons pas honte lorsque nous vous regarderons dans les yeux. Dégagez et laissez-nous avec nos catastrophes, nos fanatismes, nos haines, loin de vos prétentions, loin de vos talents, loin de vos compétences, loin de votre savoir, loin de votre expérience. Voilà, je ne vais pas dire ce que le citoyen lambda kuwaitien pense des chrétiens. Mais voilà ce qui se dit dans la presse. C'est extrêmement important. Je voudrais aussi citer le témoignage de quelqu'un qui a été mon professeur. C'est un très grand poète libanais. C'est Salah Fethiye, que vous connaissez, Madame Amal. Et Salah Fethiye a été mon professeur quand j'étais en propédeutique. Il y avait comme je suis vraiment très âgé, j'ai commencé ma licence avec la propédeutique. C'était au Liban. Et il était notre professeur de littérature française. Il a été, c'est un ancien ambassadeur du Liban à l'UNESCO, il a eu le prix de poésie de l'Académie française, il est d'une très grande famille sunnite, son frère est un très grand peintre libanais, donc ce sont vraiment les notables de Beyrouth sunnites. Il écrit, pas dans n'importe quel journal, dans le Figaro, du 6 mars 2015, « Les chrétiens sont chez eux, définitivement, dans ce monde arabe, et je les supplie à genoux, s'il le faut, de ne pas partir. Que ferions-nous, nous, les musulmans, sans leur présence, qui fut souvent pour tous les peuples de cette région synonyme de progrès à tous les niveaux ?» Figaro. C'est-à-dire que là, on est confondu, parce qu'on n'a pas l'image de Daesh, on n'a pas l'image de ces pauvres jeunes qui ont été chassés, etc. Donc, vous me demanderiez, est-ce qu'il y a un espoir? Et je crois que, bon, quand on est chrétien, on a naturellement toujours un espoir, que quand on étudie un peu la géopolitique, il s'est passé tellement de choses, les chrétiens ont tenu jusqu'à maintenant, souvent dans des conditions difficiles, ce sont les chrétiens qui ont fait beaucoup, pour beaucoup, le Proche-Orient, je pense que ça, normalement, il y aura un après-Daesh qui devrait être plus confortable pour les chrétiens, et puis non pas seulement pour les chrétiens, mais pour tous les citoyens musulmans. Hier, et je terminerai là-dessus avant que vous ayez, que vous teniez à peut-être à poser des questions. Hier, Mgr Gollnisch, et puis une personnalité très attachante qui est Charles Personnage, qui est un énarque, qui est à la Cour des comptes. Le président de la République, ils étaient ensemble lorsqu'ils ont fait l'ENA, et donc ça sert. Et Charles Personnage a été, c'est la première fois d'ailleurs, qu'on donne une mission à un haut fonctionnaire pour aller enquêter sur les chrétiens d'Orient, pas enquêter sur la situation en Irak, sur les chrétiens d'Orient. Et le rapport qui a été donc remis au président de la République en octobre, rapport au président de la République, renforcer l'action de la France dans la protection du patrimoine du Moyen-Orient et le soutien au réseau éducatif des communautés chrétiennes de la région. Donc, hier, Charles Personnage et Mgr Gollnisch présentaient à l'Institut du monde arabe ce rapport dont je voudrais simplement vous donner les lignes essentielles parce qu'elles complètent ce que nous avons pu évoquer. Des propositions d'ordre politique. Aborder la question de la pérennité et du développement des écoles chrétiennes dans le dialogue politique avec les États de la région. Ce qui veut dire, non seulement nos diplomates, il est vrai, lorsque j'étais attaché culturel à Damas, nous avions des subventions pour les écoles chrétiennes, des subventions petites, mais qui permettaient de montrer l'intérêt de la France pour, pas pour les écoles chrétiennes, pour la francophonie, parce que ces écoles chrétiennes soutiennent la francophonie. C'est ça qui est important. Ce sont les seules écoles de la région qui soutiennent encore, parce que d'abord, très souvent, les équipes pédagogiques, les directeurs d'école, les prêtres ont été formés à la française, et ils ont été formés en français. Et donc, c'est pour nous un intérêt extrêmement important de les soutenir, parce qu'en les soutenant, nous soutenons notre action et surtout notre culture. Et Charles Personnage, qui est donc un énarque, il l'a vu avec acuité, c'est extrêmement important. Mais c'est la première fois que dans un rapport officiel, on parle du rôle des chrétiens. C'est une reconnaissance très importante. Proposition relative au patrimoine. Créer un centre régional de formation des métiers de la restauration archéologique. La France, vous le savez, du point de vue archéologique, est dominante dans ce Moyen-Orient. L'œuvre d'Orient et le Sénat ont ouvert notamment récemment, l'année dernière, à Chaffé, au patriarcat syriaque catholique, ont ouvert un laboratoire de restauration des manuscrits arabes, arabes chrétiens. Et donc, soutenant précisément toute cette littérature ancienne, tous ces livres anciens qui constituent le passé du christianisme en Orient, qui a été détruit, brûlé par Daesh, entre autres. Mais vous le savez, le nouvel archevêque de Mossoul, Najib Mikhaïl, était celui qui, lorsque ces jeunes ont été expulsés de tous ces villages de Ninive, nous avions visité donc en 2013 le laboratoire de restauration des manuscrits qui était plusieurs de ces jeunes sont de Karakosh. Vous avez vu Karakosh sur là. C'est donc un village qui était devenu une ville, qui était la ville la plus importante à côté de Mossoul. Pour des raisons de sécurité, les chrétiens, c'était 70 000 à peu près, retrouvés à Karakosh avant que Daesh les déloge. Lorsque Daesh les a délogés, Monseigneur Najib Mikhaïl a donné à chaque personne qui emportait peu de choses, un livre, un manuscrit, quelque chose pour sauver ces livres. C'est absolument inouï, c'est-à-dire tout ce peuple dans la misère, nous avons entendu les témoignages, ils sont arrivés mais avec leurs précieux livres. Je ne sais pas si nous, dans les mêmes conditions, nous aurions le même courage. Je ne sais pas. Toujours est-il que ces chrétiens, c'est leur foi qui les domine. Et aussi, l'aura qu'ont souvent les religieux chez eux, parce qu'ils savent que ces religieux travaillent pour la communauté. Donc maintenant, ces manuscrits sont à l'abri à Erbil, ils sont en train d'être retravaillés, etc. Entre-temps, le père Najib Mikhaïl, dominicain d'origine, est devenu l'archevêque syria-catholique de Mossoul. Voilà ce que font les chrétiens pour conserver leur culture. Mais leur culture, c'est notre culture. C'est une culture humaine. C'est la culture chrétienne du Moyen-Orient fait partie de notre culture. C'est extrêmement important. C'est pourquoi il faut absolument les soutenir. Il disait aussi, proposition relative au réseau éducatif chrétien, organiser une représentation en France du réseau éducatif des communautés chrétiennes. C'est vrai. J'étais, il y a 3 jours, dans un grand lycée catholique Saint-Nicolas à Paris, qui est un lycée professionnel. Et donc, on m'avait demandé de venir, au nom de l'œuvre d'Orient, soutenir une action qui est demandée avec le bol de riz habituel, vous savez, qui est demandé aux jeunes à la cantine un jour de Ramadan, un jour de carême. Ces jeunes, il fallait leur dire pourquoi. Après tout, pourquoi est-ce qu'on leur demande ? Donc, je dois dire que précisément, étant un peu lâche, j'ai mis en avant-garde les jeunes qui passaient le bac, puisque j'étais dans des classes de première, entre autres, et donc le message pouvait passer beaucoup plus facilement après. Cette Saint-Nicolas soutient un grand collège qui a été fondé par un ami personnel, qui était un évêque syriaque orthodoxe, Monseigneur Ibrahim, qui a été enlevé en 2014, et on ne sait pas, on espérait peut-être qu'il serait à Barkouz, etc. Il a été enlevé par Jabhat al-Nusra, c'est-à-dire une milice islamiste, et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais c'est lui qui a fondé cette école. Cette école a subi le choc de 2 voitures piégées, et donc une grande partie de l'intérieur a été détruite, et donc on a demandé à Saint-Jacques. Et ce qu'il faudrait, pour vous aussi, pour votre connaissance, c'est rassembler, qu'il y ait un délégué, par exemple, de l'enseignement chrétien du Proche-Orient, les écoles d'Égypte, les écoles d'Irak, les écoles de Syrie, les écoles du Liban, les écoles de Jordanie, pour que le grand public le sache et puisse précisément agir plus facilement. Ce sont donc, finalement, vous le voyez dans ce rapport officiel, des propositions qui mettent en valeur les chrétiens d'Orient. Au plus haut niveau, un rapport qui est soumis à l'Élysée. Et je crois que c'est quelque chose de nouveau, parce qu'il était très difficile, et il est resté assez souvent difficile, de parler précisément de soutenir des chrétiens. Nous avons par exemple, à l'œuvre d'Orient, nous soutenons la formation de prêtres qui viennent de Syrie, qui viennent d'Irak, qui viennent du Liban, etc. C'est extrêmement difficile à faire passer ça aux finances, dans la mesure où on nous dit « mais vous formez des prêtres ». C'est-à-dire que là, c'est affreux, on est en train d'utiliser l'argent pour que la religion chrétienne soit continue à être dispensée. Alors, dans la République française, c'est extrêmement mal vu. Et donc là, le rapport est quand même pour nous tous une sorte d'espérance. C'est sur ça que je voudrais terminer en attendant, si vous voulez bien, les questions que naturellement vous me poserez. Voilà. Merci beaucoup.